Après nous avoir dit que notre Seigneur était notre avocat auprès du Père, Jean va à présent nous présenter Jésus sous un autre aspect. Aspect qui permet justement à notre Sauveur de pouvoir intercéder, prier pour nous. On va donc reprendre le verset 2, on n'en fera qu'un aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Le verset 2 de notre première lettre de Jean. Et voilà ce qu'il dit. Il est lui-même, il parle de Jésus bien sûr, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce n'est pas rien comme affirmation, ça quand même. Jésus est victime expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais également pour ceux du monde entier. Nous sommes ici en présence de l'un des articles fondamentaux de la foi chrétienne. Rien que ça. Puisque sous ce vocable de victime expiatoire nous est présenté le pourquoi nous avions besoin d'un sauveur, quelque chose qui va revenir souvent dans nos discussions avec des gens qui ne croient pas, en quoi est-ce que j'aurais besoin d'un sauveur? J'ai besoin d'être sauvé de rien ni de personne. Et le comment nous avons été sauvés. Nous allons donc prendre un peu de temps ce dimanche matin pour bien expliquer les choses. Enfin, on va essayer. Soyez concentrés. Commençons par dire que le texte grec dit littéralement « et lui est propitiation ». Il n'y a pas d'article, donc c'est vraiment « Jésus est propitiation ». Et commençons par rappeler d'où vient ce mot « propitiation », ce qu'il signifie. Dans la plupart des traductions de la Bible, on peut comprendre parce qu'expiation et propitiation recouvrent des données analogues. On a, la plupart du temps, quasi, enfin, systématiquement même, rayer ce mot propitiation de nos traductions les plus récentes en français. Je pense que c'est légèrement dommageable. Parfois, vous avez un renvoi en bois de page, quand tout va bien, on vous explique que dans le grec, c'est plutôt propitiation, parce que la propitiation revêt un sens légèrement différent que l'expiation. Mais on va expliquer tout ça. Donc, dans l'Ancien Testament, commençons par le début, la propitiation est exprimée par le verbe hébreu kiffar, qui signifie couvrir. C'est le verbe couvrir. Ce verbe est lié au mot kopher, qui veut dire couvercle, et signifie l'acte d'écarter la colère par l'offrande d'un don. C'est le sens de ce mot. Écarter la colère de quelqu'un par l'offrande d'un don qu'on fait à ce quelqu'un. En fait, c'est le fait de rendre propice celui qui nous témoigne de la colère. Propice, propitiatoire. Ça va ? Ce mot est utilisé en rapport avec les sacrifices de l'Ancien Testament, où il revient souvent. Il est en rapport avec l'Holocauste. Vous aurez toutes les références bibliques à aller voir dans les notes. Hein. Le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation, justement, et d'autres sacrifices et offrandes. Donc pour les hommes, c'est ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, pour les hommes de l'Ancien Testament, il était parfaitement normal et compréhensible que Dieu, en tant que juste juge, puisse s'irriter chaque jour contre les méchants, contre ceux qui font le mal. En fait, en gros, ben contre tout le monde, puisque tout le monde, d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, fait le mal. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. C'est bien, vous suivez jusque-là. Le psaume 7, verset 12, dira par exemple « Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. » Comment est-ce qu'il fait sentir sa colère ? Ben, on a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Il n'empêche pas le mal de proliférer. Il le limite, mais ne l'empêche pas. Et il y a donc des conséquences à cela. Si la justice et l'amour et la paix régnaient dans ce monde, depuis le temps, ça se saurait. Vous comprenez ? Dieu est, on ne le dira jamais assez, ça, hein, Dieu est vigoureusement opposé au mal sous toutes ses formes. Mais dans le même temps, les Juifs, grâce à la révélation qu'ils ont reçue de Dieu, découvrirent avec étonnement que Dieu était aussi un Dieu compatissant qui fait grâce, lent à la colère et riche en recettes, Heureusement qu'il n'y a personne au premier rang. Hein. Chesed, en bonté. Et donc sa colère, puisqu'il est riche en bonté, pouvait être écartée par l'offrande d'un sacrifice approprié. Ok ? Plus fort encore, enfin je trouve. Cette initiative venait de Dieu lui-même. Il est à l'origine de tout ça. Initiative qui offrait le moyen de se soustraire à sa colère en accordant le pardon comme un don de sa grâce, conformément à son désir de pardonner. Donc il donnait ce pardon aux gens dans l'Ancienne Alliance, pas parce que les gens méritaient ce pardon, mais parce que lui avait décidé d'installer un système qui lui permettait de pardonner. Pour le dire autrement, il invente tout ça pour que l'homme puisse quand même, je pense, je parle des Juifs en particulier à ce moment-là, puisse quand même être en relation avec lui, jusqu'à un certain point en tout cas. Alors pour illustrer cette disposition de Dieu à faire grâce, le couvercle en or de l'arche de l'Alliance, le coffre qui se trouvait dans le lieu très saint, portait le nom de Caporet. Rien à voir avec la caporou ni les caporales. Caporet qui signifie donc propitiatoire. Donc le substantif, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Suivez toujours ? Alors, ce couvercle, quand on y réfléchit, quand on l'image, donc le couvercle, le propitiatoire, le caporet, s'interposait en quelque sorte entre les tables de la loi qui étaient dans l'arche et qui manifestaient la justice, la bonté et la volonté de Dieu, les commandements si vous préférez, il y avait les 10 commandements, et les chérubins qui sont le symbole sur l'arche de la punition que mérite le pécheur. Entre les exigences de Dieu et la punition de Dieu se trouve le couvercle qui s'interpose entre sa colère et sa volonté. Vous me suivez ? Donc ces 10 commandements résumaient les exigences de Dieu et se trouvaient dans l'arche d'alliance, et les chérubins représentaient ses justes jugements. Et pour remplir son office, pour pardonner le peuple, les quatre coins, d'ailleurs il manque les petites tutes, j'allais dire. Logiquement, il y a une tute aux quatre coins du couvercle, sur lequel le grand prêtre, une fois par an, le jour de Pourim, rentrait dans le lieu très saint pour faire l'aspersion du sang sur les quatre coins du propitiatoire. L'image est forte quand même. Si vous voulez approfondir, lisez l'Épître aux Hébreux. Je vous en supplie. Alors, dans le Nouveau Testament, ça c'est pour l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, il y a un groupe de verbes grecs que Jean va utiliser deux fois dans son épître et qui n'apparaissent qu'ici d'ailleurs, dans son épître, dans sa lettre. Le groupe du verbe grec ilaskomai n'est utilisé que 8 fois dans toute la Bible. Mais ce verbe revêt une importance capitale. Ce verbe indique que Dieu est devenu, comme en hébreu, comme pour l'Ancien Testament, propice, ou en tout cas favorablement disposé à l'égard aussi bien du pécheur perdu que du croyant errant. Donc le croyant qui croit en Dieu et qui court à côté de ses pompes, Dieu est propice, et celui qui ne connaît pas Dieu, il est propice envers celui-là aussi. Vous avez remarqué qu'il n'a massacré aucun non-croyant jusqu'à présent. C'est pareil, vous voyez, il n'est pas descendu foutre des claques à tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Pas encore. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, hein. Le substantif, donc le nom commun, ilasmos, désigne donc ce que notre Seigneur est devenu par amour pour nous. Il est devenu, dit Jean, l'expiation, la propitiation qui couvre les péchés. Le moyen personnel par lequel Dieu peut être miséricordieux envers le pécheur qui croit en son Fils et en celui qui n'est pas encore, que pécheur, qui ne croit pas encore à son Fils. Avant de croire, nous ne croyons pas non plus. Et il était propice envers nous avant que nous croyions déjà. Je ne sais pas si c'est... Vous suivez toujours là ? Si vous tombez de votre chaise, ce n'est pas grave, on vous ramassera. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je n'ai pas pu éviter forcément, parlera quant à lui du lieu, l'endroit, où se réalise la propitiation, le fait d'écarter la colère. Hébreux 9. Versets 5 à 7. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins. Alors, on vous verrait sur une photo plus loin, enfin, une dire plus loin, que, en fait, les chérubins en question, ils étaient monumentaux, ils mesuraient plusieurs mètres de haut. Hein. Ils n'étaient pas simplement représentés sur l'arche en or, ils étaient, voilà, pour qu'on envoie bien le message. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre, avec leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de ceci en détail. Vous avez de la chance, il ne veut pas en parler pour l'instant en détail. Donc moi non plus, je ne vais pas, voilà. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service, donc dans le temple ou dans le tabernacle dans le désert, on va prendre le temple, hein, c'est plus récent, qui font le service dans le temple, entrent en tout temps dans la première partie du temple, dans le lieu saint. D'accord ? Mais dans la seconde, dans le lieu très saint, seul le grand prêtre entre, et ce une fois par an, et non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On parle évidemment ici du peuple hébreu. Okay ? Alors pourquoi est-ce qu'il offre du sang pour lui-même ? Parce qu'il est pécheur comme ceux qu'il représente. Donc, les prêtres pouvaient bien entrer pour leur service dans le lieu saint. Première partie, vous voyez, avec l'autel des parfums, etc. Ça, c'est le lieu saint. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent entrer dans la première partie ? Ben parce que Dieu ne s'y trouve pas. C'est aussi bête que ça. Il ne s'y trouve pas. En revanche, ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint, le lieu qui se trouve derrière le rideau, j'allais dire, derrière le voile, voilà, et où se trouve l'arche d'alliance avec les chérubins. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis des têtes de sphinx égyptiens, mais enfin, on s'en fout. Honnêtement, c'est compliqué à trouver un truc. Sur Internet, c'est très compliqué de trouver des représentations du temple qui correspondent à ce qu'il y a dans la Bible. Et comme je suis nul en dessin, je suis désolé, vous pouvez faire avec. Donc, première partie, ils peuvent rentrer parce que, objectivement, Dieu ne s'y trouve pas. Ce n'est pas là le lieu de sa présence. Par contre, le lieu de sa présence, c'est le lieu très saint, la deuxième pièce, qui est dans le noir, donc. D'ailleurs, Salomon, lors de la dédicace du premier temple, dira « Seigneur éternel, tu as décidé de vivre quoi ? Dans l'obscurité. Pourquoi ? Parce que dans cette pièce-là, il fait noir. Pourquoi ? Parce que la seule lumière dans cette pièce, c'est quand Dieu s'y trouve. Ok ? C'est pour ça que certains pères de l'Église, en particulier Daniel Bourguet, qui n'en est pas un, mais il pourrait, dit que quand Jésus est mort sous la croix, ces ténèbres qui envahissent la terre, pour Bourguet, ce n'est pas un symbole de la colère de Dieu parce qu'on vient de tuer son fils, mais bien au contraire, le lieu très saint qui s'ouvre et l'obscurité du lieu très saint, donc de la présence symbolisée de Dieu, se répand sur la terre, est accessible à la terre entière. C'est joli, hein ? Donc dans le lieu très saint, ils ne peuvent pas rentrer, les prêtres. Et personne ne peut y entrer, à part le grand prêtre, une fois par an. Excusez-moi, j'ai eu de l'asthme. Hein. Parce que justement, ce lieu abritait la présence de Dieu, et en tant que pécheur, il ne pouvait pas y entrer. Le grand prêtre, d'ailleurs, lui accrochait des petites clochettes à sa robe et une corde à sa taille, et on le laissait rentrer. Et les autres prêtres attendaient, tant qu'ils entendaient les cloches tinter, parce qu'ils se déplaçaient pour faire l'aspersion du sang, tout se passait bien, il était vivant. Mais s'ils entendaient un grand boum et plus de clochettes, ça voulait dire que Dieu l'avait tué. Et il devait tirer le corps, mais je ne blague pas, hein, il devait retirer le corps en tirant sur la corde. Donc le voile, comme on l'a vu à la diapo précédente, servait de barrière entre le Dieu saint et l'homme pécheur, car ils ne pouvaient évidemment pas habiter ensemble. Le tabernacle symbolisait donc, ou le temple, deux vérités en apparence totalement contradictoires. Dieu invitait l'homme à s'approcher de lui, et en même temps, il le tenait à distance. C'est toute la symbolique du temple. Donc le culte qui se célébrait dans le temple entretenait donc dans les cœurs la soif de la communion avec Dieu, parce qu'autrement, il n'y aurait pas tous ces juifs qui s'approchaient du temple pour être en communion avec Dieu, tout en rappelant à l'homme son impuissance en face de l'obstacle qui l'en privait, son propre péché. Et cette contradiction s'explique et se résout par le fait de la sainteté de Dieu, qui est un harmonieux accord de justice et d'amour. L'amour attire à soi le pécheur et la justice le repousse, ou le combat. Combat son attitude, combat ses comportements. Donc le lieu où la colère est ôtée est donc le couvercle de l'Arche de l'Alliance, qui est un archétype du corps de Christ, devenu une fois pour toutes propitiatoire pour les pécheurs, autel où se révèle l'infinie miséricorde de Dieu en lieu et place de sa colère. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux, en parlant du corps de Jésus, dira « Il est passé à travers le voile qui est son propre corps. » 3 Hébreux, ça c'est une tuerie, mais absolue. Quoi. Non mais vraiment. Hein. Oh. Merci Seigneur pour l'auteur des Hébreux. Donc on ne redira jamais assez, c'est un peu le but de tout ça, que notre Seigneur est favorablement disposé envers le pécheur, et ce même s'il est le péché. Donc l'enseignement du Nouveau Testament, et cela ne nous étonnera pas, rejoint et confirme donc celui de l'Ancien, concernant la gravité du péché, la colère de Dieu, mais aussi sa grâce et la façon dont il a pourvu de sa propre initiative, au moyen d'user de miséricorde envers le pécheur et de le sauver de son jugement. Disons, avoir un conciliabule dans la Trinité, à l'origine du monde, pour dire comment est-ce qu'on va régler ce problème, quoi, de cette bande d'andouilles qu'on aime, mais qui vont faire n'importe quoi. Romains 3, 25, texte de Paul. C'est lui, parlant du Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Pour ceux qui croiraient, il démontrait ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Parce que dire que Dieu est amour, c'est magnifique et c'est tout à fait vrai. Il n'est qu'amour. Mais comment peut-il prouver sa justice ? Ben c'est Paul qui résout le problème, si je puis dire, qui l'explique dans ce verset. Ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais pourtant c'est ce qu'il fait. Paul enseigne ici clairement que le sens et le but de la mort de Christ, c'est d'expier, de couvrir le péché de l'humanité. Alors, rappelons-nous cette déclaration magnifique de Jean le Baptiste quand il voit Jésus. For the first time, pour la première fois. Jesus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui couvre le péché du monde. Une parole, bang, il a tout compris. Donc l'idée du pardon divin est souvent exprimée dans l'Ancien Testament, donc par le mot « couvrir le péché ». Cette image, nous l'avons vue, provient des sacrifices dans lesquels le sang des victimes était censé couvrir les péchés, les voiler au regard de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul rajoute immédiatement « par la foi », afin que le pécheur, objet de cette immense miséricorde de l'amour de Dieu, comprenne bien que l'œuvre de pardon ne doit pas rester en dehors de lui, ni même, lui rester étranger. Cette œuvre doit faire partie de lui. Et comment est-ce qu'il l'incarne, est-ce qu'il l'intègre ? Par la foi qu'il place en cette œuvre. Donc, je vous ai fait un résumé en 3 points de tout ce que je viens de dire. J'ai eu du mal. 3 propositions suivantes peuvent résumer ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. La grâce éternelle et gratuite de Dieu est l'unique cause du salut. Il aime l'homme, c'est pour ça qu'il nous sauve. C'est pour ça qu'il sauve l'homme. 2, c'est Christ que Dieu a exposé dans son sang comme moyen de propitiation et qui est le fondement objectif de ce salut. Parce que Jésus a vécu ça, parce qu'il a accompli tout ça, on peut croire profondément, objectivement, à l'amour de Dieu et au fait qu'il nous aime assez pour nous sauver. Et troisièmement, il nous a donné la foi, qui est donc la condition subjective, notre responsabilité dans l'œuvre du salut. C'est cette réponse de la foi, mais qui nous est donnée par Dieu quand même. Et c'est par elle que l'homme s'approprie personnellement le salut. Si je n'ai pas la foi, savoir que Dieu a sauvé le monde, j'en ai strictement rien à faire, puisque individuellement, en tant que personne, je ne me l'approprie pas. Je peux très bien, dans un coin de ma tête, intellectuellement, dire oh, tout ça. Il y a des grands intellectuels qui ont lu la Bible, hein, qui ont bien compris ce qu'elle raconte, hein, même les textes de Paul. Et ils peuvent vous en parler aussi bien que moi, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se sont appropriés ça. Ça ne se passe qu'à travers la foi. Donc vous êtes sauvés, ça je peux vous l'enseigner, mais moi, dans ma vie personnelle, j'ai besoin de savoir que je le suis moi. Et comment je peux le savoir? Par la foi. Je crois ça. Dont la justice de Dieu dont parle Paul est l'attribut de Dieu inséparable de sa sainteté et qui, en quelque sorte, hein, je vais les mettre entre parenthèses dans les notes, et qui oblige Dieu, je n'aime pas ce terme quand on parle de Dieu, mais enfin j'en vois pas d'autre, qui l'oblige à prendre une attitude négative à l'égard du péché, à le punir en frappant le pécheur ou à le couvrir en établissant un moyen de propitiation, donc de pardon, d'écarter la colère, par lequel sa réprobation du mal éclate aux yeux de tous. Parce que le problème, où est la justice de Dieu avant la venue du Christ, puisque l'homme commettait des péchés abominables. Et maintenant que Jésus est venu, ce n'est pas juste ce qui s'est passé. Pourquoi ? Enfin, c'est une injustice flagrante, la croix. Où est la justice de Dieu là-dedans, d'après la conception de l'homme ? Et c'est à cette question-là que répond Paul, qu'il va répondre. La justice de Dieu devait être démontré à la conscience humaine par la croix du Christ. C'est la réponse à la question de l'homme, mais où est la justice de Dieu, quoi ? Regardez la croix. Paul fait ça souvent, il anticipe les questions de ses opposants éventuels. Deux circonstances, en effet, pouvaient faire douter de la réalité de la justice de Dieu. Paul fait allusion dans le passé, donc avant la venue de Jésus, le fait qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, donc avant quoi ? Avant la venue de Jésus. Les hommes, ils démolissaient tout, ils s'entretuaient, ils faisaient des guerres, enfin comme aujourd'hui, quoi. Et l'homme pouvait dire, mais où est la justice de Dieu ? Le psalmiste, combien de fois ils disent, mais où es-tu, Seigneur ? Le méchant grandit et moi, Dieu dépérit, enfin, etc. Hein. Il y en a des tonnes hein, dans l'Ancien Testament déjà. Et dans le présent, donc une fois que Jésus est venu, le fait qu'il justifie gratuitement ceux qui croient, on pourrait se dit, ben, c'est une drôle de façon de montrer sa justice quand même. Dieu avait donc laissé de côté, le plus proche du grec, laissé impuni les péchés dans les temps qui avaient précédé la venue de Jésus, et c'est ce que Paul appelle le temps de la patience de Dieu. Pour dire autrement, la patience, elle est finie. Le Christ est venu. C'est la réponse de Dieu à la situation de l'homme. En fait, si on y réfléchit, vous avez fait un peu d'histoire, hein, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Une somme effroyable de souffrances dans l'histoire de l'homme, avant que Jésus vienne, déjà, énormément de souffrances. Conséquence du péché de l'homme. Mais combien d'hommes se disent ce que je vis en termes de souffrance est ma responsabilité ? On se dit qu'on est responsable de rien. Comment ces hommes allaient-ils pouvoir comprendre la nécessité d'un pardon, d'un salut et surtout de la justice de Dieu ? Donc, toutes ces souffrances avaient déjà pesé lourdement sur l'humanité durant cette période d'avant la venue de Jésus. Mais toutes ces souffrances n'étaient pas un châtiment équivalent au péché de l'homme. Ça ne suffisait pas pour le punir. Vous suivez ? C'est ce que Paul dit, hein ? Elles étaient d'ailleurs inégalement réparties. Certains qui commettaient beaucoup de choses atroces étaient moins punis que d'autres. Il y a des gens qui maltraitent les autres, qui sont vraiment en dessous de tout, même qui commettent des choses abominables et qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas de problème. Et d'autres qui essaient de faire le bien, qui ont des problèmes de santé. Donc c'est totalement injuste ça, non ? Donc tout ça était inégalement réparti. Et encore une fois, toutes les conséquences des péchés n'étaient pas proportionnées aux fautes commises par chaque pécheur. Aussi, les hommes n'avaient-ils pas su, en général, voir dans leur souffrance la punition de leurs fautes ? Parce que certains, proportionnellement à ce qu'ils faisaient, n'étaient pas trop malheureux, et d'autres, proportionnellement à ce qu'ils faisaient et qu'ils ne faisaient pas, étaient beaucoup, beaucoup plus punis que certains autres. Donc, quand Paul parle de la patience de Dieu, il faut bien comprendre en termes d'humanité, hein, pas des pécheurs à la fois individuellement, mais plutôt la notion de péché de l'humanité entière. Et comme Dieu avait usé de patience envers Israël en lui donnant la loi de Moïse, okay, malgré ses rébellions et son incrédulité, son manque de foi, il avait de même usé dans la même période, au niveau de toutes les nations à côté d'Israël, de la même patience envers l'humanité dans son ensemble. Comment ? En ne la détruisant pas en rapport avec les péchés que cette humanité commettait. D'accord ? Donc cette attitude tolérante de Dieu envers le péché pendant toute cette période avait eu pour effet de voiler sa justice, de pousser les hommes à le méconnaître, à méconnaître cette justice, et même parfois la nier. Il y a des psaumes qui disent « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Ou même, psaume 50, Dieu dit au pécheur « Parce que je ne te punis pas, tu crois que je suis d'accord avec ce que tu fais ». C'est QFD. Donc je répète, ça c'est important, cette attitude tolérante de Dieu avait eu pour effet de voiler sa justice, de pousser les hommes à la méconnaître et même parfois à la nier. Il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a pas de justice. Une démonstration éclatante de cette justice, dit Paul, était donc nécessaire pour réveiller la conscience des pécheurs. Et ça, c'est pour avant la venue de Jésus. Et dans le temps présent, dit-il, parce que Jésus est venu, si Dieu justifie gratuitement celui qui est dans la foi en Jésus, il ne paraît plus comme celui qui est juste, qui maintient l'ordre moral, qui récompense les bons et punit les méchants. La vision que l'homme a de la justice potentielle de Dieu a été totalement bousculée par la croix du Christ. Il y a une drôle de façon d'envisager la justice. Pourquoi ? Parce qu'à travers un innocent, il rend des coupables innocents. Ça, ce n'est pas notre conception de la justice. Nous, le coupable, il doit crever, quoi. Il doit payer, non ? Donc, on est plus dans la vengeance que la justice. Ben, Dieu dit, ma justice à moi, c'est la croix de mon fils. Donc la justice de Dieu a besoin d'être démontrée pour ne pas courir tout simplement le risque d'être mise en doute. Et pour que le croyant lui-même puisse se convaincre que le pardon qui lui est accordé n'est pas au détriment de la justice de Dieu, en d'autres termes, que ce pardon n'est pas une illusion. Moi, le plus grand problème que j'ai eu à titre personnel quand on m'a parlé de l'Évangile, c'est de me dire « c'est gratuit, je dois croire, je ne dois rien payer par rapport à ce que j'ai fait ». Moi, ça ne passait pas, quoi. Avec toutes les conneries que j'avais faites, il faut forcément que je paye. Eh bien non, Jésus a payé. Et ça, c'est la justice de Dieu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une notion de justice ? Non ? Enfin, c'est de la folie furieuse. Hein. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. C'est de la folie, la croix. Pour les hommes qui se perdent, c'est une folie absolue. Et si nous croyons, c'est parce qu'il nous a permis de croire. Autrement, on ne croirait pas, parce que c'est incroyable. C'est donc par la mort substitutive de Jésus à la croix, il nous a remplacés sur la croix, si je dois le dire autrement, que la justice de Dieu est démontrée. Alors ce qui était intéressant, alors on pourrait dire, oui, tu chipotes, non mais c'est important. L'apôtre ne dit pas qu'elle est satisfaite, la justice de Dieu, parce qu'elle ne pourrait pas l'être, vu le nombre de péchés commis par l'humanité. Car il n'enseigne pas qu'en mourant, le Christ ait subi une peine équivalente à la somme des péchés que Dieu devait punir. Il n'a pas péché. Il ne faut pas comprendre l'expression « le Christ a porté tous les péchés du monde, tous personnellement, sortez-vous de ça ». Ce n'est pas ça que Paul dit, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Mais que dans la mort de son Fils, Dieu a suffisamment montré son horreur du péché et la sévérité avec laquelle il le juge, il faut que quelqu'un meure quand même, il a vivement représenté à l'homme le châtiment qu'il avait mérité. Ce que Jésus subit, c'est ce que toi tu mérites. Comme disait Calvin, plutôt que vous dire « Oh, moi, c'est quand même, je ne sais pas, moi, je trouve ça injuste », remercie Dieu de ce qu'il a fait, ça. Non, on n'est pas mangé par la reconnaissance, en tout cas pas moi. Hein. La reconnaissance, quand on ouvre les yeux le matin, c'est peut-être pas la première chose qui nous vient dans la boule. Hein. Pourtant, ça devrait. Parle pour moi aussi. Hein. L'expiation a donc pour origine le principe de la sanction. Le mal doit être puni. C'est un principe que la Bible formule à plusieurs reprises, dans tout l'Ancien Testament entre autres. Dieu, je prends cette formule, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Jésus a accepté de porter le poids de cette sanction, de cette condamnation universelle. Celui qui vient à lui par la foi s'identifie à lui pour être puni en lui afin d'être pardonné en lui. Nous sommes morts, Paul, hein, toujours, nous sommes morts avec le Christ à la croix et nous ressuscitons avec le Christ. Notre vieil homme, dont Paul parle dans l'Épître romain, notre vieil homme, ce que nous avons commis avant notre rencontre avec Dieu, par la croix du Christ, tout ça, dit Paul, cet homme-là, il est mort avec le Christ, il a été crucifié avec le Christ à la croix. Donc, en contemplant la croix sur laquelle le Christ a donné sa vie pour nous, nous apprenons à connaître l'étendue de notre faute, ben, c'est vrai, parce qu'il a fallu ça. Mais nous recevons aussi l'assurance que le pardon de nos péchés, quel qu'il soit, est une chose possible et surtout certaine. La rédemption en Jésus-Christ a été... Bon, là, il y a encore certains qui vont dire que cette phrase n'atteint pas leur cerveau, mais bon, je suis désolé. La rédemption en Jésus-Christ a été la divine théodicée dans l'histoire, n'est-ce pas ? Je vais traduire. La réponse au mal dans l'histoire humaine malgré l'existence d'un Dieu bon. C'est ça la théodicée. Comment est-ce qu'on réconcilie le fait que Dieu est bon et le mal ? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça dans le monde. C'est la réponse, la croix. Et enfin, je termine par là. Pour exprimer la valeur infinie du sacrifice de Jésus, et pour que tous puissent y avoir recours dans leur angoisse, l'apôtre Jean affirme que son efficacité s'étend non seulement à ceux qui ont déjà cru, ou même aux élus de Dieu qui sortent de la route, mais expressément au monde entier. Il peut et doit être présenté à tous comme l'unique moyen de salut devant Dieu. Car Dieu non seulement veut que tous les hommes soient sauvés, mais Jésus a souffert et est mort comme le second Adam, toujours dans la théologie paulinienne, le représentant de notre race. Celle-ci est tout entière au bénéfice de la rédemption, du pardon qu'il a accompli à la croix. Car Paul dira, tous ont péché en Adam et sont donc tributaires de cette lignée pour leur plus grand malheur, hein, et nous avons fait partie de cette lignée. Mais en Jésus, qui est le second Adam, et premier-né de la nouvelle humanité recréée en lui, nous sommes en lui et nous faisons à présent partie de la lignée du Christ, la nouvelle humanité recréée en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.